Excellencies, ladies and gentlemen.
Excellences, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être venus si tôt. J'ai l'honneur d'ouvrir la 24e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel, le PU. Au cours des 8 dernières années de fonctionnement, le PU a montré sa valeur fondamentale en tant que mécanisme objectif, transparent et constructif, en engageant tous les membres des Nations Unies. Le deuxième cycle de l'EPU touche à sa fin et nous ne devrions pas oublier ce qu'il est nécessaire de faire et comment le faire pour le troisième cycle. Les sessions de l'EPU cette année sont importantes parce qu'elles peuvent nous donner la possibilité de réfléchir sur la façon dont on peut continuer à renforcer la validité et l'efficacité de l'EPU au cours du troisième cycle. C'est pourquoi je voudrais inviter les délégations des États qui feront l'objet d'un examen, ainsi que les États membres et États observateurs du Conseil des droits de l'homme, alors qu'ils participent activement à l'examen, à observer la façon de continuer à améliorer le mécanisme et à réfléchir aux moyens de le faire selon le calendrier qui a été établi et affiché sur l'extranet. 14 États seront revus au cours de la présentation, à commencer aujourd'hui par l'examen de la Namibie ce matin et du Niger cet après-midi. Qu'il me soit permis d'entrée de jeu de saluer la délégation namibienne qui est parmi nous ce matin. Avant de commencer par le premier examen, je voudrais rappeler certains des principes fondamentaux qui guident notre travail et inviter toutes les délégations à respecter les principes et objectifs de l'examen périodique universel, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme. Il est important de préserver le caractère transparent, inclusif, de coopération de ce processus d'examen périodique universel. Le groupe de travail, certes, est un organe intergouvernemental, mais la participation de la société civile dans tout le processus de l'EPU est bien ancrée, notamment au niveau national et au cours des sessions plénières du Conseil des droits de l'homme. À ce titre, je voudrais vous renvoyer à la résolution 16/21 du Conseil des droits de l'homme qui rejette vigoureusement tout acte d'intimidation ou de représailles contre des individus et des groupes qui coopèrent ou qui l'ont fait avec les Nations Unies et leurs représentants et mécanismes dans le domaine des droits de l'homme. J'exhorte les États à faire un travail de prévention et à s'assurer d'une protection suffisante contre ces actes. D'ailleurs, je veux croire que nos délibérations continueront à profiter de l'esprit constructif qui habituellement emprunte cette instance. En ma qualité de nouveau président du Conseil, je suis engagée à faire tous les efforts possibles pour garantir que les délibérations du groupe de travail soient menées dans la dignité et le respect pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Je voudrais réitérer l'appel lancé par mes prédécesseurs afin de s'assurer que les questions de nature politique et bilatérale soient écartées de nos délibérations. Je voudrais aussi vous rappeler que, comme le veut la pratique habituelle, les rapports du groupe de travail fourniront un résumé factuel des délibérations. De plus, ces rapports reflèteront toutes les recommandations élaborées, étant entendu qu'il ne devrait pas être considéré comme ayant été approuvé par le groupe de travail plénier. Conformément à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme, toutes les recommandations devraient porter sur des questions relatives aux droits de l'homme. Les recommandations font partie du document final qui devrait clairement refléter la position de l'État étant examiné. Le respect des principes qui régissent l'élaboration des rapports incontestablement permet de s'assurer de la cohérence des rapports pour tous les États qui font l'objet d'un examen. Voilà qui contribue à améliorer la crédibilité du processus de l'EPU, qui permet de garantir le succès du deuxième cycle et souligne le principe fondamental d'égalité de traitement de tous les États qui font l'objet de cet examen. Mesdames et messieurs, je voudrais, si vous le voulez bien, en venir à la liste des orateurs à présent. selon les dispositions de la décision 17/119 du Conseil, les listes pour les examens lors de la présente session seront closes jeudi 14 janvier à 18 h, sans qu'il soit possible de s'inscrire après. Vendredi dernier, le bureau a tiré au hasard l'ordre dans lequel les délégations s'exprimeraient. Vendredi également, les listes des orateurs et le temps d'intervention pour chaque examen ont été distribués par email et affichés sur l'extranet de l'examen périodique universel. Permettez-moi alors de vous rappeler le temps d'intervention pour chaque examen qui est distribué de la façon suivante. Lorsque tous les orateurs sur la liste peuvent intervenir dans le temps disponible, 3 minutes sont accordées aux États membres et 2 minutes aux États observateurs. Éventuellement, le temps d'intervention est ramené à 2 minutes pour tous. Et si même à ce moment-là, tous les orateurs ne peuvent pas s'exprimer, alors le temps d'intervention est réparti également entre tous les intervenants inscrits sur la liste. D'ailleurs, je me rends bien compte que pour respecter la limite de temps, les orateurs sont tentés d'accélérer et de parler très vite. Je voudrais vraiment vous rappeler que vos interventions sont interprétées dans des autres langues. Et c'est pourquoi je souhaiterais lancer un appel à tous les intervenants de façon qu'ils puissent prononcer leur discours à un rythme raisonnable pour que les interprètes puissent les interpréter de façon fidèle et complète. Toutes les déclarations sont affichées sur la page extranet de l'EPU et par conséquent, nous vous serions très reconnaissants que le format des mots que renferment les déclarations à prononcer soit envoyé par voie électronique à l'avance à l'adresse email des États de l'EPU. À présent, si vous le voulez bien, nous allons passer à l'examen de la Namibie conformément à la résolution 5/1. Le rapport se fonde sur le rapport national, le rapport qui est la compilation préparée par le HCDH et un résumé des informations des parties prenantes également préparé par le HCDH. À présent, j'ai l'honneur de donner la parole à Son Excellence Monsieur Albert Kawana, ministre de la Justice de la Namibie, de façon qu'il présente son rapport.